Et bonjour à tous et toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ma Préférence en très charmante compagnie puisque je suis avec Chloé, Lorenzo, Emmanuel et Vanessa. Bonjour à tous et toutes.
Bonjour Tiffaine.
Bonjour Tiffaine.
C'est bon, je ne me suis pas trompée dans les prénoms, tout va
non,
bien.
Non, il y a Léo aussi à la technique.
Et il y a Léo, c'est vrai.
Ne pas l'oublier tout de même. Non, c'est ça, tu as les bons prénoms Tiffaine, très bien.
J'en suis ravie. Alors comment ça va?
Très bien, est-ce que vous allez bien? Attends, je vais donner mon micro à Lorenzo pour qu'il puisse répondre aussi.
Oui, je vais très bien. Je suis là, donc quand on est ici, on est toujours très bien.
Alors Enzo, en plus, c'est la deuxième fois que tu viens.
La deuxième fois, oui, j'ai cet honneur-là de venir, d'être accueilli, toujours très bien. Voilà.
Donc. Lorenzo Salvaggio, comédien toulousain, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit le nom de famille. Mais il n'y a pas beaucoup de Lorenzo comédiens, hein. Tu es le seul sur Toulouse.
Sur Toulouse, il n'y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un, c'est le seul et l'unique. Et donc, nous avons Emmanuel Calfon.
Exactement.
Avec un K.
Avec un K, ouais, c'est important.
Voilà, donc ils vont nous parler des amis du placard, mais juste avant de leur donner la parole, je commence du coup. Hein. Donc bonjour à tous, je vais vous rappeler, pour ceux qui le savent, et sinon le dire à ceux qui ne le savent pas, celles et ceux, qu'il y a un festival en ce moment sur Toulouse qui s'appelle Marionettissimo. C'est un festival de spectacles de marionnettes et vous avez encore la possibilité de voir plein de spectacles samedi soir, donc ce soir et dimanche. Il y a plein de lieux différents, il y a le Théâtre du Grand Rond, il y a le théâtre Jules Julien, il y a le studio, il y a le foyer des aînés, alors ça je connais moins, il y a l'escale, il y a aussi à Castanet-Tolosan et à Villeneuve-Tolosan, il y a la salle Marcel Pagnol par exemple et la salle Jacques Brel à Castanet-Tolosan. Donc vraiment aller découvrir ce festival, je connaissais pas du tout la marionnette, même je connais toujours pas beaucoup, mais j'ai vu un spectacle à Avignon cet été qui s'appelait Le songe d'une nuit d'été en marionnette et en fait moi j'imaginais pas du tout ça, enfin on m'avait dit tiens viens voir Le songe d'une nuit d'été des marionnettes. Oh, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, je suis honnête hein, vraiment je me suis dit, oh, Le songe on connaît par cœur, en marionnette, oh, j'imaginais des petits trucs qui bougent comme à Pinocchio quoi, et bon ça me tentait pas, et mes amis m'ont dit mais Chloé arrête de faire ta tête de mule, vas-y et va voir ce que c'est, et j'ai halluciné, c'était des marionnettes, alors là c'était une forme de marionnette qui s'enfile, alors les par les pieds en fait, les comédiens s'habillent dans la marionnette, en fait les pieds de la marionnette sont les pieds du comédien, un des bras est le bras du comédien et le bras de la marionnette, et l'autre bras c'est un bras qui est désarticulé bien sûr, et après il y a le corps, le buste qui part du buste du comédien et c'est la marionnette, et donc c'est des marionnettes en taille humaine. Et ça m'a fascinée. C'était incroyable, le jeu des comédiens. Je me suis dit, mais ça, en fait, c'est génial à faire parce qu'il y avait vraiment du jeu et en même temps, on est au service d'une marionnette. On est caché, mais sans être, enfin, dans cette version-là. En tout cas, c'était hyper beau. Et je sais que après, j'ai vu d'autres spectacles avec des petites marionnettes magnifiques aussi. Et donc, je pense que dans ce festival, il y a l'occasion de voir et de découvrir et de pas rester sur ces a priori comme j'en avais. Et donc, vraiment, allez découvrir tout ça. Vous avez, alors je peux en citer quelques-uns, sur Toulouse, samedi à 16h, et dans 17h30, il y a Kraft. Ça, c'est au Centre culturel Alban Mainville. À Castelmauroux, il y a la Serpillière de Monsieur Mutt. Le dimanche, qu'est-ce qu'il y a à l'escale? Tiens, je connais bien l'escale. Il y a Nos Petits Penchants. Ça dure 50 minutes. En plus, c'est dans des prix abordables, entre 8 et 12 euros, je vois. Pratiquement tous les spectacles sont à ce prix-là. Il y en a pour les enfants, à Castanet, Margolette. J'ai vu, c'est à partir de 6 ans souvent, parce que c'est quand même peut-être un peu impressionnant. En tout cas, celui que j'avais vu, moi, à Avignon, pour des enfants, ça pouvait être très impressionnant, je pense, mais en même temps fascinant, quoi. Donc, allez découvrir ce beau festival, Marionettissimo. Voilà. Du coup, je vais passer la parole maintenant à mes invités. Donc, ils sont venus, on en a parlé la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, du coup.
Il
y a 2 semaines, ça passe vite. C'est la pièce Les Amis du Placard au Grenier Théâtre, qui commence donc attends, je repasse le micro.
Le 29 novembre jusqu'au 9 décembre, 20h30, au Grenier Théâtre à Toulouse.
Voilà, alors moi j'avais fait un petit pitch, mais j'ai bien envie de vous entendre faire le pitch à vous. Déjà, vous faites, donc c'est... Lorenzo, tu veux faire le pitch ou Emmanuel?
Alors le pitch, c'est simple, hein, c'est un couple, Odile et Jacques, qui profitent d'une promotion dans une grande surface pour aller s'acheter un couple d'amis. Hein, voilà, ça apparaît complètement fou, et pourtant la pièce parle de ça, de ces deux personnages, Odile et Jacques, qui vont s'acheter un couple d'amis. Et alors après, bah, est-ce qu'ils vont profiter d'eux de quelle façon? Est-ce qu'ils vont pousser leur vice jusqu'au bout? Ça, il faut venir voir la pièce pour s'en rendre compte. Mais voilà le pitch en gros de ce spectacle, de cette pièce écrite par Gabor Razov en 2010. Voilà, je crois.
Et donc vous êtes quatre comédiens et comédiennes dedans. Je parle bien en face du micro, vous m'entendez bien, j'espère. Il y a Angélique Infante, qui est déjà venue ici. Il y a Laurent Berthier, mon copain de ma compagnie d'impro. Et donc Emmanuel Calfon. Alors Emmanuel, moi je ne te connaissais pas.
Non.
Enfin, j'ai entendu parler pas mal de toi un petit peu. Mais du coup, c'est la première fois que tu viens à la radio.
Oui.
Tu veux bien nous parler un peu de toi, d'où tu viens?
D'où je viens?
Ouais, tout ça, quoi.
Alors, on a deux heures devant nous, ben, où je fais en format réduit.
À peu près. Format réduit.
Ça pitch de toi. Okay.
Tu reviendras une autre fois, comme Lorenzo, après, hein, vous revenez plusieurs
fois. D'où je viens, je vais commencer par quoi pour être le plus efficace possible? Moi, ça fait, une quinzaine d'années que je fais du théâtre. J'ai commencé en tant que amateur, parce que j'étais avocate avant, et voilà, j'ai tout arrêté il y a 5 ans, sans aucun regret, pour me consacrer vraiment, vraiment qu'au théâtre. Et donc, depuis, j'ai joué au 3T, j'ai joué aussi avec la compagnie A, et puis une compagnie toulousaine.
Je connais très bien la compagnie A. Tu as joué dans quoi dans la compagnie A?
J'avais joué dans Les Précieuses Ridicules, et on avait joué Le Père Noël est une ordure aussi.
J'ai des personnes qui sont qui prennent des cours d'impro avec moi, ont joué dans Le Père Noël est une ordure. Celle qui faisait Zézette.
Oui.
Et celui qui joue le rôle de Thierry l'ermite.
Oui.
Donc il s'appelle Thierry aussi.
Oui.
Ils sont dans mes cours d'impro.
D'accord, ok.
Ils m'ont dit ça hier et j'ai vu la pièce et ils me disent, tu nous avais pas reconnus.
Tu n'as pas reconnu?
Non, parce que dans la vie de tous les jours, les comédiens, moi, c'est des personnages que j'ai vus sur scène. Quand je les vois sortir, pour moi, c'est plus les personnages, c'est plus eux. Et je les reconnais pas toujours. En plus, en Zézette, excuse-moi, mais pour la reconnaître.
Elle est fabuleuse en Zézette. Et puis, moi, du coup, j'étais Thérèse, personnage que j'ai adoré jouer. Malheureusement ou heureusement, je continue à avoir quelques intonations à la Thérèse. Donc voilà, ça m'a marqué à vie, je pense.
Ça donne quoi, les intonations à la Thérèse?
Pierre, quand même, je vous en prie. C'est un gilet. Bon, là, vous m'avez pris un peu au dépourvu, j'avais pas mes répliques.
C'est très bien.
C'est une serpillière.
Non, mais écoutez, quand même.
Me rappelle, c'est qui dit... Ah non, c'est le rôle de Josiane Balasco qui n'est pas dans la pièce.
Non, elle n'est pas dans la pièce.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'énerver.
C'est ça,
voilà,
oui,
c'est ça.
C'est cela, oui.
Mais il n'est pas dans la pièce, c'est vrai. La pièce était super, donc du coup, pardon, je t'ai interrompu. Mais
non, je t'en
compagnie
prie.
Compagnie a un beau parcours.
Voilà, et donc j'ai le grand plaisir de rejoindre la compagnie Cœur et Jardin pour cette nouvelle pièce. Ça fait un petit moment que je viens voir des pièces régulièrement au Grenier Théâtre. J'avais eu la chance de pouvoir y jouer donc avec d'autres compagnies. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et je suis ravie d'avoir rejoint cette équipe. C'est une belle ambiance, des super chouettes comédiens. Il y a beaucoup de bienveillance. Et puis on rigole aussi pas mal. Et c'est vraiment agréable. Et surtout la pièce en elle-même m'intéresse beaucoup parce que je suis assez curieuse en fait de ce côté on peut tous acheter, on peut tous payer et on peut tout organiser dans notre vie pour qu'on dise qu'on est heureux parce qu'on a fait ça on a mis tout ça dans les bonnes cases et puis on a les bons éléments pour être heureux et être bien. Et cette pièce parle aussi de ça en fait. Ils sont absolument persuadés que ils font tout bien et on a.
Toi, tu joues le rôle de l'amie achetée, c'est ça, Juliette.
Voilà, c'est Juliette, donc l'amie achetée avec Lorenzo qui joue le rôle de mon mari. On est mari et femme dedans.
Ouais.
Et on est là pour travailler en fait. Hein. Donc vraiment, on n'a pas le choix. Il faut assumer, faut y aller, faut qu'on aille bosser. Et faut qu'on prenne sur nous, mais je peux te laisser.
Vous avez un placard sur scène, parce que nous, moi je sais qu'on l'avait mis en scène et on commençait en ouvrant un placard. On était dans les cintres. Est-ce que vous avez un placard sur scène ou pas du tout? C'est une mise en scène.
Je ne sais pas s'il faut en parler, parce qu'il faut garder le secret. Mais enfin, quand ça s'appelle Les Amis du Placard,
oui, bon.
Peut-être qu'on peut imaginer peut-être. Qu'on a un placard. Suspense, faut
venir c'est voir Erwan le Guillou.
Mais qu'est-ce qu'on y met dedans ? On ne sait pas.
Il est très malin, Lorenzo, à chaque fois. Il donne un petit truc, et puis il tease. Et puis
voilà,
après,
bien,
il dit,
moi.
Allez, venez, mais venez.
J'attise la curiosité.
Oui, tout à fait.
Et du coup, c'est Erwan Guillou qui a fait le décor comme,
absolument, c'est toujours lui qui fait les décors. D'ailleurs, si vous êtes venu voir Ramsès... Ouais.
Incroyable, il a fait un escalier dans une salle de théâtre, mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais c'est incroyable, voilà. Avec un fauteuil de personnes à mobilité réduite qui monte là, je ne sais pas comment on appelle ça, ces fauteuils-là, qui montent le long d'un...
Ouais,
fauteuil
assisté.
Mais bon, c'est un bon. Il a des idées super. Là, on a encore un élément incontournable qu'est le décor, qui est toujours un acteur aussi à lui tout seul. Voilà, on est quatre et des fois cinq quand le décor joue son rôle et il va jouer son rôle, je crois, comme d'habitude en fait avec les décors d'Erwan, hein, la puce à l'oreille, c'était des portes qui claquaient, c'était des choses formidables. Le meurtre sur le Nil, pareil. Bref, tout ça, on est là pour Les Amis du Placard. Et oui, je joue le rôle du mari de Juliette, donc Guy.
Qui... Et vous êtes acheté par Odile et Jacques, qui sont joués par Angélique et Laurent.
Qui sont
Laurent.
Une espèce de j'ai envie de dire des espèces de
d'excentricité
mais de nouveaux riches quoi, des gens ils disent allez on a de la thune, on a de l'argent, on va se payer quoi, qu'est-ce qu'on peut se payer, on s'est déjà tout payé, on va se payer des amis, voilà. Et c'est terrible parce que ça c'est monstrueusement féroce et drôle cette pièce, parce que ça nous ramène un petit peu à notre société d'aujourd'hui où tout est marchandisé, tout est mercantile, tout est monnayable et on achète tout sur Internet, on achète ce qu'on veut comme on veut et puis il y a pas de sentiment non plus, on achète sans et puis après il y a des gens qui sont extrêmement riches qui achètent des choses qu'on se dit mais c'est incroyable et donc là ces gens achètent ce couple d'amis qui sont un peu au bord du gouffre et ils n'ont pas le choix. Donc, voilà.
On fait même des livraisons de chansons. Ça, c'est fort. Un comédien, un chanteur qui vient chanter devant toi et qui te chante une chanson de la part d'une personne, comme si tu offrais des fleurs.
Ah, ça existe vraiment, parce que j'ai vu un film.
Ah, ouais, dans les
ça
films,
existe
vraiment.
Avant, il y avait les cartes, musicales qu'on envoyait par poste.
Et
maintenant,
là,
il y a
c'est un chanteur qui vient, vient devant toi et qui te chante ta chanson et qui dit « Voilà, c'est de la part d'un tel.
Bah, » D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle « On connaît la
chanson ».
Oui,
tout à fait. Oui, avec Artus.
Qui est tiré de ça.
Et en parlant de musique, du coup, on va enchaîner sur la pause musicale. Donc c'est Lorenzo, tu as eu l'idée de ça parce que vous avez pas encore, comme tu me dis, vous êtes encore dans la recherche pour la musique du spectacle. On ne sait pas s'il y en aura. Enfin, tu es encore inoutise à nouveau. Et, et du coup, toi, tu as pensé à une chanson, à la musique de Vladimir Kosma du film Le Jouet.
Oui, parce que en fait, c'est totalement ça. Francis Weber, en 1976, quand il a réalisé ce film avec, dans le rôle principal, Pierre Richard, le pitch de ce film, c'est un gosse de milliardaire qui décide de s'acheter un jouet et qui est un être humain. Et c'est Pierre Richard qui joue le rôle donc pour ceux qui ont déjà vu le film, et je vais pas le raconter, et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben je le laisse découvrir, mais en tout cas, c'est ça, quoi. Donc il s'est acheté un être humain comme jouet. Et là, on est un peu dans ce que Razov décrit dans ce pitch et dans cette pièce, cette marchandisation de l'humain et de l'amitié.
Du coup, on va vous laisser pour la pause musicale avec la musique donc de Vladimir Kosma, Le Jouet. Thank you. Ah, cette pièce, elle est sujet à débat, là. Même pendant la pause musicale, on en parlait de tout ça. On n'a pas dit, on n'a pas reprécisé que la mise en scène est de Francis Azéma. Donc, c'est en général de la qualité. Hein. Ça va, il ne vous traumatise pas trop?
Non, pas du tout. C'est pas celui qu'on croit.
C'est pas celui qu'on croit. Moi, je ne croyais rien, je demande comme ça. Mais donc en général, là, c'est lui qui a fait aussi la mise en scène de Ramsès II. Donc, c'était super. Moi, j'ai vraiment aimé.
Et il joue dedans.
Il joue dedans aussi. Enfin, oui, bon, c'est un. On n'a plus à discuter de son talent. C'est le directeur du pavé aussi. Si vous ne connaissez pas ce théâtre, je vous invite à y aller. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on devait dire? Oui, le théâtre, le Grenier Théâtre, donc, qui se trouve métro Argoulé, impasse...
14 impasse de Gramont.
Voilà. 31-200 Toulouse.
Nous fait le plaisir de nous offrir des places pour aller voir la première, donc le...
29 novembre.
29 novembre. Si vous êtes disponible et que vous avez envie de découvrir cette pièce, connectez-vous sur l'Instagram de Ma Préférence. Hein, Tiffaine, il faut taper Ma Préférence pour le trouver.
Ma Préférence 31.
Ma Préférence 31.
Voilà. Vous nous écrivez en MP, comme on dit, en message privé. Mmh. Vous nous dites, je suis intéressée, je suis disponible. Et nous, après, on va récolter toutes les personnes qui sont intéressées. On va faire un petit tirage au sort.
Et bien sûr, n'hésitez surtout pas, on va faire un petit post pour parler du concours, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous si vous connaissez des amis qui seraient intéressés.
Voilà, vraiment parlez-en autour de vous. Moi, je vais devoir filer parce que j'ai un petit spectacle à aller voir là, et pas des moindres, je vais voir Dedo et Yacine, la deux humoristes du Jamel Comedy Club, enfin anciennement du Jamel Comedy Club, mais qui ont fait plein de choses depuis, qui ont joué dans la série Bref, tout ça, et qui font un duo là, dans un nouveau lieu que je vais découvrir, je vous en parlerai, je connais pas du tout, donc je vais filer, je vous abandonne, pardon les filles, j'écouterai la radio comme les autres. Et ben, au revoir à tous aussi.
Au revoir.
Au revoir Chloé, merci beaucoup.
Au revoir. Bienvenue.
Et on se retrouve avec Pascal. Allô Pascal.
Bonsoir à toutes. On est en direct ce soir alors. Et... tout le monde est là sur le plateau.
Et oui. On est avec.
Ah d'accord.
Y a on Vanessa, était avec, y a Chloé. Alors on est avec Vanessa et on est avec Lorenzo, Emmanuel et Chloé là qui nous quittent, qui vont voir un spectacle. Là pour l'instant, on
d'accord.
Est toutes les deux. Et on est bien sûr avec Léo, notre super technicien, Pascal.
De vous rejoindre. Et donc ce soir, je vais vous parler du Goncourt parce que bon, il a été décerné il y a pas très longtemps. Vous devez être au courant, je pense.
D'accord.
Et je pense qu'il vaut le coup qu'on en parle un petit moment parce que c'est quand même un très très bon Goncourt, ce qui n'arrive pas tous les ans malheureusement. Il y a parfois des concours un peu difficiles à lire, d'autres qui sont moins intéressants. Cette année, c'est un bon concours, alors je voulais vous en parler. Il raconte l'histoire de Mimmo Vitaliani, donc comme son nom l'indique, il est d'origine italienne. Et quand on retrouve ce monsieur, il est à la fin de sa vie, il est dans un monastère, à l'article de la mort, il est dans un monastère perdu au fin fond des Abruzzes. Et en fait, il vivait là, reclus volontaire, hein, depuis plus de 40 ans. Et il est complètement tombé dans l'oubli. C'est un sculpteur qui a fait des choses extraordinaires. On le verra plus tard dans le roman, mais au début du roman, on le retrouve là. Et à cet endroit se trouve aussi sa dernière œuvre. Et sa dernière œuvre, c'est une Pietà. Alors, une Pietà, c'est une Vierge qui tient son fils sur ses genoux quand il descend de la croix, dans Jésus. Il y en a, la plus célèbre étant, évidemment, la Pietà de Michel-Ange, qui est dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Et donc, ce sculpteur a sculpté pour sa dernière œuvre une Pietà. Et cette Pietà, elle a, au fil des ans, et pas très longtemps d'ailleurs, mais les gens qui l'ont vu ont eu des réactions qu'on va qualifier de problématiques et l'Église a jugé bon de la retirer de la vue des fidèles et de la cacher vraiment dans ce monastère et on suppose que Mimmo a suivi sa statue et il est resté là pendant ses 40 ans et à l'article de la mort, c'est lui qui nous raconte son histoire. Alors, quand on a un père qui est tailleur de pierre, qu'on est d'origine italienne et qu'on se prénomme Michelangelo, l'avenir paraît tout tracé. Mais malheureusement, quand on est émigré en France, qu'on est pauvre, qu'on a 13 ans en 1916 et qu'on se retrouve orphelin de guerre et qu'en plus on est atteint d'achondroplasie, alors c'est une forme de nanisme, ben tout devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est ainsi que Michelangelo Vitaliani, qui est appelé Mimmo, est envoyé par sa mère dans son pays d'origine, donc l'Italie, comme apprenti chez un oncle, l'oncle Alberto. Alors en réalité, il semblerait que ce soit pas tout à fait un oncle, mais plutôt une simple connaissance et qui était redevable au papa. Mais bon, c'est pas un personnage très intéressant. Mais en fait, il est envoyé chez lui pour apprendre le métier. Le tonton Alberto en question a acheté un petit atelier de sculpture en Ligurie. Et un beau jour, Mimmo atterrit dans le village de Pietra d'Alba, Pierre d'Aube en italien. C'est un petit village donc qui est le fief d'une grande famille d'aristocrates italiens qui s'appelle les Orsini, qui ont donné des papes entre autres. Et cette famille, elle est un peu sur le déclin en ce début du XXe siècle, mais elle a quand même encore un immense domaine agricole avec des orangers, et puis surtout, elle jouit d'un pouvoir quasi absolu sur les villageois. Et on verra à quel point au cours du roman. Et puis elle a un réseau d'influence qui est encore très exploitable. Et la dernière des enfants des Orsini, elle a aussi 13 ans, comme Mimmo, elle s'appelle Viola, et elle va par hasard le rencontrer. Alors Viola, elle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une enfant HPI. Vous voyez, à peu près, elle a une curiosité insatiable, elle a une mémoire exceptionnelle, elle dévore les livres de la bibliothèque de son papa, elle veut tout savoir, elle veut tout faire. Et donc, il va s'instaurer entre eux une amitié très forte. Elle va prêter ses livres au petit Mimmo qui, lui, n'a pas les moyens de s'instruire, mais qui quand même sait lire parce que sa maman lui avait appris à lire. Et donc, ces deux êtres qui sont vraiment extraordinaires en deux mots, ils vont être amis, uniquement amis, mais cette amitié va défier le temps, ou presque. Parce que bon, les années à venir en Europe et en Italie vont être difficiles, hein, puisqu'on est au début du XXe siècle, elles vont être tourmentées, violentes, voilà, on va traverser le fascisme, la guerre et tout ça, quoi. Donc, c'est toute cette histoire qui est racontée dans ce roman. C'est un roman qui fait quand même 600 pages.
Oui.
Donc, il est quand même costaud. Oui. Mais non, il ne faut pas avoir peur. il se lit très, très bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il se lit bien. D'abord, déjà, moi, je l'avais acheté au mois d'août parce que je suis Jean-Baptiste Andrea, l'auteur, depuis longtemps et qu'il fonctionne très bien en bibliothèque. Et donc, je l'avais acheté, et je pense qu'il aurait eu du succès, même s'il n'avait pas eu le Goncourt, mais bon, il l'a eu, et c'est très bien. Et c'est un très bon roman, parce que il comporte tout ce qu'il faut pour plaire au plus grand nombre. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, un bon Goncourt, parce qu'un livre, il fait pour être lu. Si vous décernez un prix et qu'il est lu par 3 personnes, c'est pas très intéressant. Mais là, il y a une très belle histoire, d'abord, qui est très originale. Les personnages, ils sortent du lot, sont très charismatiques. Alors, l'un, donc, porte un handicap visible, hein, puisqu'il est de petite taille, il est nain. Et l'autre, elle a la malchance d'être née fille dans une société et un milieu social, en plus, où on refuse aux femmes tous les droits et toute forme d'émancipation. Le roman a, en plus, une puissance dramatique très forte, qui est servi par la construction, qui est très très efficace. On passe d'un chapitre raconte l'histoire de Mimmo, et l'autre on suit un peu son agonie et l'histoire de sa fameuse Pietà, parce que au début on connaît pas trop l'histoire de cette statue, et on l'apprend dans des chapitres intercalés au fil de l'histoire. Et puis, évidemment, c'est la petite histoire qui est imbriquée dans la grande, hein, comme je vous le disais, puisque c'est sur cette période qui permet, alors parce que parfois la réalité dépasse la fiction, hein. On le voit tous les jours, malheureusement. Ça permet d'échafauder des intrigues qui peuvent être alambiquées et rocambolesques, mais sans qu'on trouve cela improbable, quoi. C'est tout à fait plausible. Et enfin, et surtout d'ailleurs, parce que Jean-Baptiste Andréa, ben, il a déjà fait ses preuves, il écrit très très bien, et il nous offre tout ça dans un style, une écriture qui serve parfaitement l'histoire. C'est très très bien écrit. Donc voilà, c'est une pure fiction. Cette année, l'an dernier, c'était plutôt un roman, une histoire personnelle. C'est souvent les Français, ils aiment bien raconter leur histoire personnelle, mais là, non, c'est tout est fiction. Et alors moi, ça m'a fait penser un peu à Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Voilà, si celui-là, vous l'avez peut-être lu ou vous avez vu le film, ça a été un très très gros succès. C'est des grandes histoires comme ça qui embrasse des périodes historiques. Celui-là, il a un côté sentimental en plus, et c'est très très beau. Enfin, c'est un très très bon roman, un moment de lecture très agréable, même s'il a 600 pages, mais je vous garantis qu'on le dévore parce qu'on se laisse vraiment emporter par cette histoire. Donc ça s'appelle Veiller sur elle, et c'est de Jean-Baptiste Andréa, et c'est édité chez l'Iconoclaste. Voilà, pour une fois, j'ai adoré le Goncourt, et je voulais vous en faire part. Voilà, pour aujourd'hui.
C'est pas souvent hein, qu'on aime le Goncourt, oui, à ce point-là, qu'on se dit « Ah, je suis pas trop d'accord » et tout, mais là, je pense que
non, mais
ça a pris ta voix.
Alors, on offre souvent le Goncourt à Noël, alors des fois on se plante. Mais là, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Si vous avez des cadeaux, de livres à faire, vous pouvez aller sur le Goncourt sans problème. Offrez-le, c'est un très bon livre, il plaira à tout le monde. Franchement, je vois pas comment il ne peut pas plaire, ce livre. Il englobe tellement de choses, c'est de la bonne littérature, voilà. Et populaire, parce que les bonnes choses doivent être populaires aussi. C'est pas un roman élitiste du tout, donc il faut le souligner.
Et c'est le problème du voilà. Prix Goncourt, c'est souvent académique.
Un petit peu, des fois. Donc là, c'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs. Il m'est arrivé de parler à votre antenne de Goncourt que j'avais trouvé pas terrible. Donc cette année, pour une fois, je suis contente, donc je le dis. Et je vous en fais part.
C'est important de le souligner. Très bien.
Voilà.
Merci
voilà,
beaucoup, Pascal.
Je vous dis à une prochaine fois.
À une prochaine fois. Merci beaucoup.
Au revoir.
Vanessa, tu avais raccompagné nos invités, tu nous as rejoints sur la pointe des pieds. Alors, du coup, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un festival qui va avoir lieu. C'est le Festival des rencontres du cinéma italien à Toulouse.
On reste en thème de l'Italie.
C'est, oui, bien sûr, 19e édition du 24 novembre au 3 décembre. C'est au cinéma l'ABC et on aime beaucoup ce genre de cinéma avec il y aura deux avant-premières qui seront à l'affiche avec La Chimère d'Alice Rochewacher qui était sélectionnée à Cannes 2023 et Moi capitaine de Matteo Garrone, Lion d'argent à Venise 2023. Et après, il y aura 10 films de réalisateurs affirmés comme Gianni Amelio, Ivano De Matteo, Riccardo Milani, Eduardo De Angelis, Roccardo Palpaleo et j'en passe et des meilleurs. Vous allez avoir de quoi faire. Et en plus, eh bien, il y a 7 films en compétition et il va y avoir des prix. Alors, il y a le prix du public, le prix du jury et le prix du jury étudiant ainsi que 2 nouveaux prix qui ont été instaurés l'an dernier, c'est le meilleur jeune acteur et la meilleure jeune actrice. Donc de quoi faire ? Des films comme Masoul Summer, Moi capitaine, donc La Chimère, Le bel été, L'âme en paix, Prima Donna, Quand, Je vais manger ton cœur, Romantique, J'habite ailleurs, Adagio, Commandant, Dernière nuit à Milan, qu'on avait parlé avant, hein, parce que c'est déjà sorti au cinéma, mais voilà, c'est un film coup de cœur italien. Merci les gars, Le Seigneur des fourmis, L'Ordre du Temps, Mia, Désaccordé. Une sacrée sélection. Alors, bien sûr, j'ai dit les titres en français. Hein. Mais bon, normalement, c'est L'Ordine del Tempo, Mia, Grazi, Ragazzi, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, Comandante, El Vivo Altrove. Enfin, voilà. Je ne suis pas italienne, donc je me suis permis d'utiliser les titres en français, mais c'est tout
ils
aussi...
Ils sont beaux, les titres français.
Oui, oui, franchement,
ça donne... Je veux manger ton cœur et il m'inspire.
Ah, celui-là, oui, il me donne très, très envie de le voir. Alors, c'est tarif habituel du cinéma, hein, l'ABC, avec la carte Festival 4 places à 22 euros, le pass Festival illimité à 65 euros. Ça veut dire que vous pouvez voir tous les films de la compétition, des avant-premières et les films cultes. Et la billetterie est ouverte à partir du 21 novembre. Ça y est, c'est déjà ouvert, donc n'hésitez pas. Et pendant toute la durée du festival, il y aura une buvette qui sera installée à l'ABC. Et bien sûr, l'équipe de l'ABC sera là avec Olivier, Gaël, Maristé et tous les autres, ainsi que Marc, le directeur, qui seront enchantés de recevoir les rencontres du cinéma italien.
Vanessa, je crois que tu as un coup de cœur aussi. Je t'ai entendu en arrivant dans les studios, tu parlais du festival de Muret.
Du film de Muret, oui,
ouais, tout à fait. Du festival du film de Muret.
Avec 51 avant-premières. Et moi, j'ai vu 27 films. Oui, ça fait beaucoup, j'avoue.
Mais c'est pour ça que tu étais en vadrouille.
C'était que du pur bonheur. Et il y avait 19 films en compétition. Alors, 19 films complètement différents, avec des vues. C'était très, très éclectique, la sélection. Ils font toujours un travail d'orfèvre. Vive le cinéma à Muret, qui organise le festival du film de Muret. Et j'ai eu deux coups de cœur, dont un vraiment qui a ravi mon cœur, mais à fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi pris. La dernière fois, c'était pour le film Mon Héroïne de Noémie Lefort, qui a fini coup de cœur de mon année,
ouais, hein,
2022. Et là, HLM Poussy, je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année 2024.
C'est celui dont tu parlais, c'est une histoire avec les services sociaux. Est-ce que c'est celui dont tu parlais quand je suis arrivée?
Pas du tout. Celui que tu as entendu quand je parlais, c'était Rien à perdre, avec Virginie Efira, Félix Lefebvre, qui vient de sortir au cinéma, puisqu'on faisait les sorties des cinémas. Mais c'est vrai que je l'avais vu au Festival de Muret. Non, là, c'est HLM Poussy. C'est un premier film. Et quel premier film de Nora El Ourch. Et le synopsis, c'est Amina, Djeneba et Zineb, trois adolescentes inséparables, postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l'agresseur de l'une d'entre elles. Elles devront choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions. Et je peux vous dire que les interprétations de Léa Aubert, qui joue Amina, Medina Diarra, qui joue Djeneba, et Salma Takaline, qui joue Zineb, sont époustouflantes. Elles sont trois amies, il y a de la fusion. Et puis, il y a ce côté aussi de biculture, qui a le personnage de Amina. Voilà, elle a une mère française et un père marocain, franco-marocain. Et du coup, elle se retrouve entre les deux et elle est dans une famille aisée. Elle vit dans un autre côté et ça, c'est une très belle scène qui est mise en place par la réalisatrice avec les bus qui partent pas du même côté. L'un part d'un côté d'un milieu aisé, l'autre part du côté de la cité où vivent Djeneba et Zineb. Voilà, elles ont d'autres préoccupations et Zineb notamment a un grand frère qui a un ami qui la voit grandir et voit la différence. Elle le voit comme un frère aussi. Elle a grandi avec et elle ne voit pas du tout la différence. Pour elle, c'est son frère et lui, eh bien, il la considère comme une femme. Il l'a vu grandir et c'est vraiment très bien fait. Il y a des zones grises incroyables qui sont mises en place. Je ne vous dirai pas comment, parce que c'est vraiment un petit jeu de noir et d'étoiles. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà, vous découvrirez ça. Nora El Ourch, c'est vraiment une pépite à la réalisation. Elle a fait un travail d'orfèvre. Elle nous plonge dans cette... dans cette vie, dans cette amitié entre ces trois filles qui sont totalement différentes l'une de l'autre, mais qui ont grandi ensemble et qui ont cette amitié très forte. Et malheureusement, elle va être mise à rude épreuve par cette vidéo. Et oui, les réseaux sociaux, les risques, les dérives des réseaux sociaux et cette vidéo qui, au début, était là pour dire les choses par rapport à l'agression qu'elle a vécue. Et elle va devenir virale, cette vidéo. Elle va de 100 et quelques vues, elle va passer à plus de 10 000, voire beaucoup plus. Et ça va devenir très, très dangereux pour l'agresseur. Et donc, il va tout faire pour la retirer. Les menaces, les coups en douce, les yeux noirs... des actions pas très catholiques, mais ça, vous le verrez tout au long du film. Alors, c'est un film qui sortira le 6 mars 2024, que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres festivals. Sur le festival du film de Muret, c'est vrai que j'étais frustrée parce qu'il n'a pas obtenu de prix. Il a eu la mention honorable quand même, il a été cité par le jury jeune, mais il n'a pas obtenu de prix, alors que moi, je vous assure, vraiment, j'aurais offert un prix parce que je trouve la réalisation excellente, la photographie, les interprétations aussi bien des filles que des garçons. Et puis on a une maman illustre. Alors, c'est vrai que c'est un petit rôle, mais Bérénice Bejo qui joue quand même dans ce film. Et quand on a posé la question à la réalisatrice, alors c'est pas moi, hein, c'est pendant le débat, on lui posait la question de savoir comment elle avait eu Bérénice Bejo. Elle a dit, voilà, j'ai proposé à l'agent, tout ça, on devait se voir. Et moi, pendant 3 jours, j'ai peaufiné. Pourquoi elle devait faire partie du film. Et donc, elle lui a dit, quand elle est arrivée, et Bérénice Bejo, Harry, il lui a dit, moi, pendant 3 jours, j'ai recherché tout ce qu'il fallait dire pour faire partie du film. Donc, je trouve ça excellent. Et il y a une scène très forte entre Amina et sa maman, donc, qui est jouée par Bérénice Bejo. Léa Aubert et Bérénice Bejo font une scène très belle. Je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait vous gâcher, mais je vous en parlerai prochainement. Vous écouterez l'interview de la réalisatrice que j'ai pu rencontrer au Festival de films de Muret, Nora El-Ourch, qui nous a accordé une interview. Alors, je ne pourrais pas la mettre tout de suite, hein, parce que j'ai vu avec la distributrice, je ne peux la mettre que 2 semaines avant la sortie, mais je vous invite vraiment à trouver où se joue ce film dans les festivals. Alors, vous avez plusieurs festivals, hein. Nora El-Ourch m'a envoyé un message comme quoi que la prochaine avant-première de prévu, c'est le jeudi 18 janvier à 21h au cinéma 7 Batignolles à Paris 17e. Je sais, c'est pas la porte à côté, mais pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à aller voir ce petit bijou parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je sais qu'il y a un festival près de Toulouse, du côté de Carcassonne, je crois, qui devrait avoir le film, mais comme rien n'était annoncé, je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez la possibilité de voir HLM Poussy, allez le voir parce que ça vaut vraiment le coup.
Ça a l'air d'appeler à plein de thématiques différentes et très actuelles en plus.
Et tout à fait. Les réseaux sociaux, le fait de sortir même le fait de l'adolescence,
une agression, de toutes ces choses-là, c'est des histoires
les collégiennes.
Et puis, mine de rien, on parle quand même d'une partie de la population qui existe, en fait, et tout, tous ceux qui ont des deux nationalités ou qui ont une partie. C'est compliqué, c'est très. Je cherche un peu mes mots, mais voilà, tous ceux qui ont deux nationalités, en fait, qui existent, c'est une vraie partie de la population française, ça fait vraiment partie de la culture française.
La biculture.
Oui, la biculture, mais elle fait vraiment partie de la culture française. Ouais, et ça, c'est chouette, vraiment, de le mettre en valeur, en fait. Enfin, pas de le mettre en valeur, mais d'en parler durant ces films-là.
Oui, puis comme la réalisatrice nous a dit, c'est 60 à 70% de sa propre vie pour le rôle d'Amina, puisqu'elle est franco-marocaine, elle aussi. Donc, elle connaît la biculture. Et puis aussi, ce côté d'agression, ce côté de consentement, ce côté d'agression sexuelle qu'elle a eu aussi et qu'elle a dû affronter. Donc, c'est vrai qu'elle met ce côté-là et le consentement, la zone grise qui est vraiment
la fameuse
très, très
zone
bien
grise.
Oui, non, mais tout au long, en fait, c'est un fil rouge qui va nous suivre jusqu'à la fin du film.
C'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus discuté, le rapport au consentement, le fait d'apprendre le consentement, la fameuse zone grise en fait qu'on appelle c'est
ben on a quelques films qui viennent de sortir là sur le consentement.
Oui, il y a un film qui s'appelle Le consentement.
Le consentement,
ouais.
Il y a le film How to Have Sex d'une réalisatrice britannique.
Les Chatouilles aussi, me semble.
Oui,
mais ça date.
C'était d'avant. Et HLM Pussy qui vient se rajouter à la liste et je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant plus que là, pour HLM Pussy, ça part juste d'un bisou. Comme quoi.
Ah mais ouais, je franchement je suis intriguée, je suis très très intriguée par ce film, surtout l'univers, les personnages de base, le fait de suivre des adolescentes qui ont une biculture, enfin non, c'est ouais, pour le coup je suis assez je vais utiliser un mot, je suis assez enjaillée par ce film.
C'est un mot très français.
Oui, c'est un mot que j'ai moi-même inventé.
Eh ben n'hésite pas hein, quand tu le vois en avant-première ou autre dans le coin ou même si tu es sur Paris, à aller voir ce film qui, je le rappelle, est un vrai petit bijou pour moi et un réel coup de cœur du Festival du film de Muret.
Et bien, sur ces bonnes paroles, moi, je vais prendre le micro et je vais lancer la deuxième pause médicale puisque, comme tu le vois, Vanessa, j'ai sorti mon super chapeau Koro-sensei parce que je vais parler de Japanimation et je vais parler d'un animé, comment dire, on m'a tanné durant des mois pour que je le voie. Je l'ai séché en une semaine. Voilà, donc je lance la pause musicale, c'est Lost in Paradise de Ali. Everybody just talk, nobody really do it. I'm not a yard of my dish to kill him. It's me. Gotta cut to cut me and not for your jibum. No judge that can break the walls. Don't have been a fake. You're low, you're cool. You low, you prove them wrong. I'm keeping up. I've done it,
東京 Hell から Paradise そりゃ勝ち取るまでなら Gotta Fight 今さら柔らかけできるわけねえだろぶちかませ頭の中から現実に変換していく綿密に眠らずアクション レイディすぎこの Life が生み出す芸術品 Nothing is for real That's how you make me feel Gotta beat this don't be in love Pick up waste the time Got a mind understand Nobody can hold me down I won't keep an out fight in my life Cause my life is living for love
Alors je coupe en partie parce que le morceau est assez long, c'est un morceau du groupe Ali qui est un groupe multinational de hip-hop funk japonais. Donc Ali c'est un acronyme, c'est Alien Liberty International et voilà. Et donc cet animé, donc en fait ce morceau qu'on a écouté, ça vient d'un animé qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Alors est-ce que Vanessa ça te dit quelque chose ?
Non.
Est-ce que Léo, ça te dit quelque chose ?
Moi, je connais, moi.
Ah, est-ce que tu l'as vu ?
J'ai regardé la première saison et le film, mais j'ai pas vu la deuxième saison.
Ah, la saison 2, c'est une autre ambiance que la saison 1, je te préviens tout de suite.
Okay.
On est sur autre chose. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un animé qui commence à talonner, voire détrôner l'Attaque des Titans en termes de popularité.
Oh, et... Ah bah, ça doit être assez impressionnant parce que l'Attaque des Titans,
oui. Ouais, c'est
il commence à le must à du must. Quoi.
Ah, mais le film a été diffusé au cinéma pour.
Oui,
au
oui,
Japon,
c'est.
Ouais. Et ouais. Donc, on va suivre. On est dans un monde. En fait, ça se passe dans le monde actuel, donc à Tokyo, où en gros, quand les sentiments négatifs des humains se matérialisent et prennent forme pour devenir des espèces de monstres, des espèces de démons qui ne sont vus que par certaines personnes, pas par tout le monde. Et on suit dans ce monde, ouais, déjà. Et on suit dans ce monde Yuji Itadori, donc qui fait partie du club d'occultisme de son lycée. Il croit pas trop à ses histoires, sauf qu'un beau jour, ses amis, qui font aussi partie du club, trouvent une espèce de relique et ça attire des démons. Et Yuji, il se dit bon bah, il réfléchit pas, il veut aider ses amis, donc il avale la relique pour tuer le démon en question. Je te vois lever les yeux au ciel. Il est lycéen, il réfléchit pas, il fait à l'instinct. Et donc, il se retrouve emprisonné face à un homme un peu étrange qui lui dit qu'il est un exorciste et qui lui dit « Écoute, là, ce que t'as fait, concrètement, t'as avalé la relique d'un démon surpuissant. Moi, j'ai des ordres, c'est simple, je dois te tuer parce que t'as un réceptacle. » Ok ? Mais il lui dit « Et par contre, je te propose quelque chose. »
Tu vas partir à la chasse aux démons.
C'est plus ou moins ça. En fait, la relique que tu as avalée, il y en a, je sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a...
12, je crois, 12.
Ouais, il y en a 12 en tout. Donc, on pourrait peut-être en profiter pour se débarrasser de ce démon une bonne fois pour toutes. Donc, si tu arrives à tous les avaler et à résister, on te tuera à ce moment-là. Comme ça, on se débarrassera de ce démon. De toute façon, quoi qu'il arrive, toi, tu mourras. Donc là, au moins, tu peux mourir en rendant service. Yuji, il est en mode « Ok, ça me va ». Et donc, il décide de rentrer à l'école d'exorcisme, ce qui peut aussi voir les démons. Et on va le suivre un peu dans cette aventure. C'est un manga qui a été écrit par Gege Akutami, je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est un manga de Gege Akutami, la saison 2 est actuellement en cours de parution. Donc il y a, comme l'a dit Léo, la saison 1 et un film. La saison 1 pose les enjeux. C'est-à-dire
c'est sur
fait,
quoi
c'est sur Crunchyroll.
Merci.
Avec plaisir. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll, la saison 1, le film, la saison 2, qui est en cours de parution et vous l'avez en simulcast, c'est-à-dire qu'il est disponible sur Crunchyroll une heure après la sortie japonaise. Vous l'avez une heure en sous-titré.
Ah, c'est en sous-titré.
En sous-titré.
Informe.
Ah, ben j'informe. pose pas des questions, ça m'aide à informer. Et donc, c'est à la base un shonen, donc on va reprendre un peu, enfin, on va retrouver tous les archétypes du shonen. Donc, on retrouve le shonen par excellence, c'est Naruto. Et c'est vrai qu'il y a une vibe Naruto. Mais là où c'est intéressant, c'est que le mangaka joue avec nos attentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a les thématiques d'un shonen, mais c'est traité de façon beaucoup plus seinen. C'est-à-dire beaucoup plus pour adultes.
D'accord.
Bah, par exemple, à l'instar de Naruto, bon, bah, voilà, on a notre héros qui a un objectif suffisamment lointain pour que le manga puisse durer dans le temps. Sauf que bah, là où Naruto, son but, c'est de devenir Hokage, Yuji, bon, voilà, gagner, c'est mourir. Il y a un côté aussi qui est super Dragon Ballesque. Donc, c'est Dragon Ballesque, c'est quand on a des personnages avec des puissances démentielles. C'est-à-dire, voilà, tu donnes un coup de poing, ça détruit un immeuble. Voilà. Et donc la saison 1 pose les enjeux, nous présente les personnages. Elle est assez fun à regarder pour le coup. Elle est assez joyeuse. Les scènes de combat sont super agréables parce que on retrouve certaines techniques d'animation en fait qu'on avait déjà dans certaines scènes cultes de Naruto. Et les personnages sont super attachants parce que pareil en fait ils vont à contre-pied un peu des archétypes auxquels on s'attend dans les shonen en fait en général. Pareil, on a le personnage avec la puissance démesurée. Enfin voilà, on rentre assez vite dans l'enjeu. Et une fois qu'on arrive à la saison 2, on change d'ambiance. C'est-à-dire que là, ça tient vraiment en haleine. Moi, ça m'a tenu en haleine. En général, d'un point de vue scénaristique, quand on a un personnage très très fort qui joue le rôle de mentor dans ce genre de scénario, on s'attend à ce qu'à un moment, il disparaisse ou il meure pour que le personnage principal évolue. C'est ce qui se passe avec Naruto, par exemple. Alors là, il prend un peu ça, mais il le fait différemment. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même de l'enjeu qui se crée. C'est très compliqué d'expliquer sans spoiler, mais ça tient vraiment en haleine. C'est vraiment un côté, c'est très shonen Neketsu. Donc, pour ceux, moi, je sais que je suis plus trop public. Par contre, c'est vraiment traité comme un seinen. Il y a la thématique de la mort qui revient très souvent. C'est assez intense. Donc, je sais que l'intro, je l'ai trouvé assez. L'intro de la saison 1, j'étais en mode ah oui, on rentre fort dans le truc. Alors l'anime, il est produit par les studios MAPPA. Donc c'est eux qui avaient fait Yuri on Ice notamment. Après c'est un nouveau studio. Tous les persos sont super intéressants. Voilà, ils reprennent il y a aussi une inspiration, on retrouve beaucoup d'inspiration d'anime, de films, de séries. Il y a une inspiration qu'on retrouve, c'est Hunter x Hunter, dans le sens où on a une empathie pour les monstres, en fait, où ils sont un peu développés, où on pose un peu la limite entre qui est le vrai monstre, en fait, dans l'histoire. C'est très, y a un côté très ambivalent. Il y a un personnage que j'aime énormément et qui est très surprenant, qui est traité comme un antagoniste, en fait. Il fait partie des exorcistes, mais il est vraiment traité comme la mise en scène nous le fait voir à travers les yeux des démons en question. Donc, sachant que c'est un personnage. Les démons, ils se font pipi dessus quand ils entendent son nom, quoi. C'est voilà. Et du coup, il paraît très terrifiant. Moi, j'avais peur, quoi, devant mon écran. Je me dis, ah oui, d'accord, très bien, ça marche. Il y a beaucoup de références à la culture folklorique aussi japonaise, hein, que ce soit dans les différents pouvoirs des personnages. Même Yuji Itadori, il faut savoir que son prénom vient d'une plante médicinale très connue au Japon, parce que le but de ce personnage, c'est vraiment d'aider et de rendre service. Voilà, et ça c'est alors la saison 2 est actuellement en cours de parution. Je pense qu'on arrive sur la fin, parce qu'elle est en parution depuis juillet. C'est un épisode par semaine. Vous avez la saison 1 et le film que je n'ai pas encore vu pour le coup, mais que je pense que je vais voir. Qui est alors apparemment il est important pour d'un point de vue scénario, il est important pour comprendre la saison 2. Moi j'ai pu regarder la saison 2 sans avoir vu le film. Là, pour le coup,
j'avais vu le film, mais il est un peu spécial. Enfin. Du coup, je pense qu'il est plus dans la vibe de la saison 2 que dans la 1.
Possible.
Quand j'avais enchaîné après la saison 1.
Clairement. C'est pas la même ambiance.
C'est pas la même ambiance, c'est pas le même personnage. Il y a plein de choses où tu te retrouves un peu bizarre. C'est intéressant.
En fait, t'as d'autres personnages, mais au début de la saison 2, tu retrouves d'autres personnages, mais après, tu te retrouves dans le présent avec les personnages initiaux. Mais c'est vrai qu'il y a un gros changement d'ambiance après la saison 1. Ouais, là, il y a un côté, ça tient en haleine. Moi, il y a des moments où je me sentais pas très bien pour les personnages. Alors, j'étais là, je regardais en mode, bon, d'accord. Voilà, et ça, c'est sur Crunchyroll, c'est Jujutsu Kaisen.
Après, là, les studios, ils ont des problèmes, là, de ce que je...
Ah mince.
Je suis en train de lire, enfin, on n'aura peut-être pas la fin de la saison 2... Parce qu'il y a des problèmes de surmenage et de choses comme ça au niveau de l'équipe qui est en train de réaliser Jujutsu Kaisen.
Les conditions de d'animateur au Japon, c'est très très compliqué. Et encore là, comme ils font par saison, c'est un peu plus sain, mais oui, ça m'étonne pas. Je suis pas étonnée.
Là, le studio a refusé le report des prochains épisodes qui avait été demandé par les équipes.
Ouais.
Et donc, et oui, on ne sait pas comprends. Comment ça va se passer par la suite. Est-ce que ça va craquer et il n'y aura juste plus d'épisodes, ou est-ce que ce sera de la moins bonne qualité pour sortir à temps?
Là,
en tout cas,
coup,
la fin...
Quitte à choisir, autant qu'ils reportent. Enfin, pour le coup, je préfère avoir une fin de saison de qualité plus tard qu'une fin... Mais ça, c'est le gros problème des conditions de production et même de publication au Japon. Hein, ça, c'est... Enfin, bon, y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir clôturer cette émission. C'était ma préférence. Merci encore, Vanessa, d'être venue nous parler cinéma.
Et merci, Tiffany.
Et on salue encore une fois Chloé, Lorenzo et Emmanuel, qu'on pourra retrouver. De toute façon, on a redit les dates, c'est le 29 novembre.
29 novembre, c'est l'invitation ça. Pour le concours qui Exactement. Va avoir lieu sur Instagram.
Exactement. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site ainsi que sur l'application. Et on vous souhaite à tous une très très belle semaine et très belle journée. Au revoir Vanessa.
Au revoir Tiffany.